VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Noak Chot, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En République centrafricaine, les opérations de recensement électoral lancées le 29 juin dernier piétinent. Plusieurs dysfonctionnements entravent les activités d'inscription, notamment le manque de moyens adéquats mis à la disposition des agents de l'ANE, l'autorité nationale des élections déployées sur le terrain, et aussi les multiples mouvements de mécontentement des agents recenseurs. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Dès son lancement à Bangui, le recensement électoral a connu une faible mobilisation des populations en âge de voter. L'autorité nationale des élections a dû faire marche arrière afin d'impliquer les maires d'arrondissement et chefs de quartier dans les opérations. Quelques jours plus tard, l'engouement devient important. Jusqu'au 30 juillet, date de la clôture du recensement à Bangui, l'autorité nationale des élections a assuré avoir enregistré plus de 500 000 électeurs, en plus de la commune de Begwa et de Bimbo, aux périphéries de Bangui, sur les 2 millions attendus. Marie-Madeleine Coué, rapporteure générale de l'autorité nationale des élections, ANE.
Il y avait 511 671, plus Bangui d'inscrits déjà. Le chiffre donné pour Lombelampoko, il a déjà évolué. Par exemple, à Begwa, en 3 jours, ils ont inscrit 80 000. Et Bimbo 1, Bimbo 3 et 4, ça fait 44 721. Donc ça évolue. Et j'ai bien précisé que c'est un bilan vraiment à minima. Il y en a qui venaient de démarrer, mais on attend pour toute la République à peu près 2 millions.
Malgré ce bilan jugé positif par l'ANE, les opérations qui se poursuivent dans les autres villes du pays sont fragilisées par les plaintes des agents des démembrements de l'ANE, plaintes relatives au manque de moyens de travail, aux caméras régulièrement pannes. À cela s'ajoute le non-versement de leurs primes. Situation décriée par Thierry Vaka, conseiller national de transition et ressortissant de Mongumba dans la préfecture de la Lobaye.
Les démembrements de l'ANE sont déployés dans la circonscription de Mongumba. Nous avons des problèmes. Les fiches d'enrôlement ne sont pas en quantité suffisante. Les appareils numériques chargés de prendre en photo les personnes recensées ne fonctionnent pas ou soit il y a un problème de batterie. Donc tous ces dysfonctionnements font que le travail n'est pas fait.
Autre dysfonctionnement, les grognes répétées des agents recenseurs revendiquant quasi régulièrement le versement de leurs indemnités. En plus de cela, l'absence marqué de certains chefs de quartier auprès des agents de recensement pour témoigner de leurs administrés. Désiré Bienvenu Bambou est agent recenseur au centre d'enrôlement de l'école préfectorale de Bimbo.
Ici au niveau de Bimbo, les chefs de quartier restent à la maison et ils veulent à ce que les administrés aillent chez eux et ils les enregistrent et ils signent les documents et que ces administrés-là, à leur tour, nous amènent les documents et qu'on puisse les enregistrer. Peut-être les chefs ne sont pas motivés, on ne sait pas parce qu'ils devraient être là avec nous et si c'est leur administré qui est là, ils se disent que c'est voilà, ça c'est mon administré et puis on les enregistre. Et ici, mais ce qui est là, les chefs ne sont pas avec nous.
Autant de problèmes à traiter par l'ANE qui compte boucler ses opérations de recensement électoral d'ici le 22 août prochain dans le reste du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le gouvernement rwandais se félicite du non-lieu prononcé par la justice britannique dans l'affaire du chef des services de renseignement rwandais, Emmanuel Karenzi Karake, arrêté à Londres en janvier, à la demande de la justice espagnole, qui le recherche pour la disparition de plusieurs ressortissants espagnols pendant le génocide de 1994 au Rwanda. Le général Karenzi Karake ne sera donc pas extradé en Espagne, le compte-rendu du directeur de la radio-télévision Contact à Kigali, Albert Roudat Simboroua, au micro d'Éric Manirakiza.
Oui, le gouvernement est satisfait qu'au moins la justice s'est exprimée clairement là-dessus. Mais en plus de ça, je crois pouvoir dire que les gens aussi, quand même, quelque part, ont senti une certaine frustration d'un pays africain qui arrive une histoire comme ça. Je crois qu'ici, tout le monde ressent toujours ce manque de respect, des fois, quelquefois, pour des institutions parce qu'elles viennent d'Afrique. Donc aujourd'hui, je crois qu'aussi des gens se sentent bien.
Un porte-parole du tribunal de Westminster Magistrate a dit que des accusation spécifiée dans le mandat d'arrêt n'entre pas dans le cadre des infractions couvertes par la procédure d'extradition britannique. Est-ce qu'il y a eu une réaction du gouvernement par rapport à ce point?
Oui, ça conforte ce que le gouvernement rwandais déjà dès le départ avait dit aux Britanniques. Mais la question qui va peut-être se faire poser maintenant, c'est la suite qui va être donnée à tout cela. Il a fallu quand même que quelqu'un crée cette action et c'est quand même venu de quelque part.
Justement, comment on en est arrivé à ce point?
Il est quand même étrange que René Mugenzi, qui est d'origine rwandaise et qui réside en Grande-Bretagne, qui en fait s'est adressé à la police de Grande-Bretagne en inventant en tout cas que le chef de la sécurité, la documentation, comme on dit en français, rwandaise, Karim Tikana, qui est venu en fait en Angleterre pour tuer. Mais cette personne-là, il ne faut pas oublier que c'est le fils de Joseph Mugenzi, soupçonné de génocide, recherché par la justice rwandaise, et que cette même personne se fasse passer pour un rescapé du génocide, jouit de l'hospitalité britannique, il trompe la police britannique, et à ce moment-là, fait activer ses réseaux en Espagne, qui ont essayé de raviver, en fait, ça qui avait été déjà déclassé par la justice espagnole. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement la justice britannique qui s'est prononcée, mais la justice espagnole. Et la finalité, on le saura le 8 septembre par la Cour suprême espagnole.
Albert Rudatsimburwa à Kigali.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burkina Faso, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour annuler la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré pour haute trahison et attentat à la Constitution. La plus haute instance en matière de Constitution avait été saisie par les partisans du leader déchu après le vote en ce sens par les députés du Parlement intérimaire le 16 juillet dernier. Jacques Aristide.
Le vote du Parlement ne rentre pas dans les domaines de contrôle de constitutionnalité exercés par le Conseil constitutionnel, qui ne peut pas se prononcer sur la constitutionnalité des lois déjà promulguées ou en vigueur. C'est en ces termes que l'institution justifie sa décision, laquelle ne peut faire l'objet de recours. La mise en accusation concerne également l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré et il s'agit ici de coups et blessures volontaires et d'assassinats notamment. Une procédure que les élus pro-Compaoré ont qualifiée de chasse sorcière.
Au Mali, le cadre djihadiste Souleyman Mohamed Kenen a revendiqué aujourd'hui l'attaque de l'hôtel Biblos à Sévaré, non loin de Mopti, qui a fait 13 morts, dont 5 employés de l'ONU, annonce l'AFP. Kenen est proche du prédicateur islamiste radical malien Amadou Koufa et il a fait partie de l'aile malienne des forces de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar quand le nord du Mali était sous le contrôle des groupes djihadistes. Avant cette revendication, les soupçons des enquêteurs maliens se portaient plutôt vers le FLM, le Front de libération du Massina. L'attaque sanglante de l'hôtel de Sévaré par des djihadistes a encore intensifié le sentiment d'insécurité de la population malienne. Des précisions avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
L'insécurité au Mali devient de plus en plus le quotidien des citoyens, même si les autorités s'efforcent à dire que des dispositions sont en train d'être prises pour veiller sur des personnes et leurs biens, la population ne cesse de s'interroger. Pour illustration, la prise d'otages déjouée du vendredi en plein jour à l'ancien hôtel Biblos, situé, tenez-vous bien, entre le camp de l'armée de l'air et le QG de la MINUSMA. Cette attaque est la troisième en moins d'une semaine dans le pays. Mamadou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'organe de régulation de la presse a suspendu pour un mois le quotidien Aujourd'hui. Son directeur de publication avait déjà été incarcéré, puis libéré au début du mois. Jean-Roger Bion.
Le Conseil national de la presse a suspendu ce quotidien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo pour 21 parutions. Cette décision qui a pris effet hier interdit à tout imprimeur de tirer ce journal pendant la durée de la suspension. Pour Joseph Titi Nyawa, directeur de publication, le CNP a été mis en mission par le pouvoir en place. Joseph Titi avait lui-même été interpellé et incarcéré le 28 juillet pour outrage au chef de l'État. Il a été libéré le 3 août dernier, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Économiquement très fragilisé, la presse ivoirienne est restée très divisée pendant la crise politico-militaire qui a fait plus de 3000 morts dans le pays. Maintenant, l'ancien président Laurent Gbagbo est détenu à La Haye et le président Alassane Ouattara est donné grand favori à l'élection présidentielle d'octobre prochain.
Et pour terminer ici aux États-Unis, l'état d'urgence est en vigueur à Ferguson dans l'état du Missouri où la police a procédé à un certain nombre d'arrestations pendant les manifestations à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Michael Brown, un adolescent noir tué par un policier blanc le 9 août 2014. L'état d'urgence a été proclamé lundi après l'inculpation de jeune homme de 18 ans, entre autres pour violence contre les forces de l'ordre. Tyrone Harris, un ami proche de Michael Brown, a été grièvement blessé par les policiers après qu'il eut tiré sur un véhicule banalisé de la police dimanche soir. Selon le chef de la police locale, John Belmar, l'incident s'est produit peu après un échange de tirs entre deux bandes rivales à Ferguson. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.